ludique. La vitesse est l'une des choses qui caractérise peut-être le plus le monde de la technique. Nous nous déplaçons de plus en plus vite et grâce à des outils audiovisuels très sophistiqués, nous échangeons et sommes informés en temps réel, devenant presque les témoins de chaque événement. C'est une banalité de le souligner, ce qui n'est pas cependant une raison suffisante pour ne pas y réfléchir. Dans le livre de l'image, livre de la Kabbale que nous avons évoqué la semaine dernière, l'auteur nous expliquait qu'au jour de la rédemption, le temps de l'histoire se métamorphosera, le soleil ralentira sa course, la rotation des étoiles et des sphères ralentira également, les durées deviendront septuples, un jour sera long comme une semaine comme sept, et ainsi de suite. Je ne sais si ce temps arrivera, mais peut-être, ce que veut dire cet auteur, c'est que l'on peut se donner à soi-même les conditions de la rédemption en acceptant de ralentir le temps de notre vie façonné par la folle allure. Comme dit Nietzsche dans sa préface d'Aurore, il s'agit de découvrir l'art du lento, qui consiste à se tenir à l'écart, de prendre son temps, de devenir silencieux, devenir lent, de sortir de la hâte, de la précipitation indécente et suante qui veut tout, tout de suite, en avoir fini avec tout. Nous sommes souvent gagnés par cette impatience, dont Kafka disait qu'elle est l'un des deux péchés capitaux, d'où tous les autres dérivent, l'autre étant la paresse. Ils ont été chassés du paradis à cause de leur impatience, ils n'y rentrent pas à cause de leur paresse. Mais peut-être n'y a-t-il qu'un péché capital, l'impatience. Ils ont été chassés à cause de leur impatience, ils ne rentrent pas. Et si Kafka a su mettre des mots sur ce mal contemporain, il en proposa aussi le remède, le livre et l'écriture. Opposer à la vitesse du monde la lenteur de l'écriture, du mouvement de la plume sur la page et du temps de la pensée dans un esprit en quête d'éternité. C'est peut-être cela la littérature, un monde de lettres où ce mot signifie aussi les lettres, celles que l'on écrit, que l'on envoie et que l'on reçoit. Correspondance, expérience rare par les temps qui courent et sur laquelle il importe donc peut-être que nous nous arrêtions. Patricia Farazi, bonjour.
Bonjour Marc-Alain.
Patricia Farazi, vous publiez Bande passante aux éditions de l'Éclat, un livre de correspondance avec l'un de vos deux fils, Raphaël Valency, un musicien dont nous sommes en train d'entendre quelques secondes de l'une de ses compositions intitulée « The Organ of Love ». Cette expérience d'écriture n'est pas banale, Patricia Farazi.
Non, elle n'est pas banale et c'est effectivement une expérience d'écriture plus qu'une correspondance. Et pour parler des bandes passantes, il faut bien se dire que le titre est très important et il faut se reporter, pour moi, à la genèse de cette écriture dont Raphaël était absent et qui se situe dans un moment très précis de ma vie. À Tel Aviv, en Israël, où je revenais après y avoir vécu, donc dans un moment à la fois de nostalgie et de d'émerveillement d'un présent hors de tout le reste, la situation, la guerre, etc. Mais je me trouvais dans un café et un café très particulier à Bograchov. Et c'est un café où il y a des livres, un café qui est aussi librairie où des livres sont à disposition, des livres anciens sont à disposition des lecteurs dans toutes les langues. J'ai regardé autour de moi, Et tout à coup, il s'est passé une chose miraculeuse. Personne n'avait de portable, personne n'avait d'ordinateur. Tout le monde lisait. C'était le matin, il faisait chaud, c'était au mois de mai. Et les gens avaient tous un livre face à eux et lisaient. On entendait le bruit de la rue derrière, les pages qui tournaient. Et c'était un moment très précis où une phrase, enfin, cette chose est venue dans ma tête, bande passante. Des bandes passantes de vie, des bandes passantes de nostalgie, des bandes passantes de toutes les cultures mêlées, puisque tous ces livres étaient dans des langues diverses, et je pense que pas mal de gens lisaient dans des langues diverses. Et là, j'ai sorti un morceau de papier et un crayon, chose étrange à notre époque, et j'ai écrit un poème. Et ce poème, je vais vous le lire, il est dans le livre, il a été dilué un peu, et le voilà. Dans la bande passante, l'histoire recommence, racontée par de vieux enfants. Reines et rois de la poussière et des grincements de frein. Dans le marc de la tasse, la bonne aventure annonce midi. Un pas de plus, loin de ce tissu que la nuit avait plié sous la tête. Fraîcheur liquide des fils que le réveil emporte. Sous bonne garde de ce réel-là, celui qu'on traque et qu'on rate. Le réel qui glisse sous les pneus lisses du présent. Un café sucré dans un matin poudreux de chaleur et de poussière. L'été noir incessant. Soulevant les bords, mordant le temps, dans un trou surnage des sacs, plastique des corps, le goutte à goutte prend la route des extrémités, dans un café sucré surnage des merveilles et des regrets, la chaleur irrigue le ventre où mûrit un enfant roi de plus de 1000 ans, quelques chats inventent des postures et des odeurs, les chats errants sont les uniques propriétaires de l'été et des rives de l'Est, la tasse où se liquéfiait la nuit est maintenant pleine de feu, c'est juste, tout est savamment disposé. Matin, midi, noir, feu, et le pas, boitant entre les heures. Alors là, les dés étaient jetés, et je me suis tournée vers mon fils qui n'était pas là. Je me suis tournée vers lui de manière virtuelle, bien sûr, puisqu'il vit loin, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est, toi qui es ingénieur du son, qu'est-ce que c'est qu'une bande passante? Alors il m'a donné une explication fort savante, bien entendu. J'ai compris que c'était une gamme de fréquences qu'un système peut raisonnablement traiter. Alors le mot raisonnable ne m'a pas plu, évidemment. Et donc, je lui ai dit, eh bien écoute, écrivons des bandes passantes, mais de manière totalement déraisonnable, c'est-à-dire en allant à rebours de ce qui se passe autour de nous. L'expression qui nous est venue, c'est une post-société du spectacle, où le spectacle n'est même plus le spectacle, mais un spectacle sur lui-même, qui se rejoue sans arrêt, à partir de où les individus qui se laissent happer par ce spectacle se laissent aveugler et passent leur vie devant des écrans. On a cette sensation quand on entre dans le métro, partout. Et donc, on s'est rendu compte que si on ne se trouve pas dans ces réseaux, sur ces écrans, on n'existe plus. On est des fantômes, et donc on a eu envie de faire vivre des fantômes, de rappeler des fantômes, tous ces êtres perdus, inconsistants, qui sont comme dans ces films japonais que nous aimons tant, Raphaël et moi, et dont nous parlons dans le livre un peu. Et voilà, ça nous a poussé à écrire ce livre, retrouver le temps, la lenteur, le noir et blanc, et ce monde, ce théâtre d'ombre du XXe siècle où nous avons vécu, lui et moi, lui très jeune, enfant, moi déjà grande adulte, et de retrouver des relations qui soient fondées sur un dialogue, un vrai dialogue, même si parfois nos bandes passantes ne se répondent pas exactement, tel n'était pas le propos, ce n'est pas une correspondance, même si les choses correspondent aussi, et où les regards, où on sort de ce monologue incessant, de ces regards différés par les selfies, où les gens ne regardent plus autour d'eux, où les touristes ne regardent plus les monuments, mais se photographient devant les monuments, parfois même on ne voit pas le monument sur le selfie. Et on s'est rendu compte dans ce livre à deux voix, alors qu'il s'agit de deux générations différentes, avec des vies différentes, où nous exprimons nos différences, qu'il y avait là une seule complicité et que deux vies bien distinctes, une double maïeutique où chacun amène l'autre à se dévoiler, à se donner une seconde naissance dans l'écriture. Enfin, moi, j'écrivais avant. Raphaël, c'est la première fois. La première fois qu'il écrit un livre. Et où chacun accepte cette étrange et seconde mise au monde. Alors, Raphaël, on s'est rendu compte qu'il y avait une concordance, une correspondance, mais dans le sens de « ça correspond ». Et Raphaël, dans une spontanéité rythmée, lui pris dans un tourbillon, dans le tourbillon d'une ville glaciale, puisqu'il vit à Montréal, où il ne fait jamais vraiment très chaud. Et moi, avec ma manière d'écrire, plus travaillée, plus de background, dirais-je, plus dans la lenteur, dans la semi-solitude d'un lieu sauvage, face à la Méditerranée, eh bien, je crois que ces bandes passantes existent. Voilà.
Alors, elles existent. Vous venez de parler d'une nouvelle naissance par l'écriture. Kafka utilise la même image de la naissance quand il lui finit d'écrire en une nuit son récit intitulé Le Verdict. Écrire, c'est naître, c'est faire naître. Faire sortir à la lumière, dit la langue hébraïque, le Hotzi Lahor, pour parler de l'édition d'un livre, par exemple. Mais je crois qu'écrire, c'est aussi être particulièrement sensible à la dimension de l'ombre. Je pense à ces vers de Paul Celan qui dit « Parle toi aussi, parle comme le dernier, dis ta parole, parle, mais ne sépare pas le oui du non, donne aussi du sens à ta parole, donne-lui de l'ombre. » Patricia Farazzi.
Donner de l'ombre, c'est, je crois, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je pense qu'il n'y a pas un seul de mes livres qui ne parle pas de l'ombre ou de l'obscurité. Et vous dites, Lao Tzu Lahor, Ken, c'est bien cela, oui, faire sortir à la lumière. Mais curieusement, dans ces bandes patientes, c'est presque un mouvement inverse. On est allé vers l'ombre. Ou peut-être dans un jeu permanent entre la lumière et l'ombre, mais on est allé vraiment creuser dans l'ombre, dans les ombres du présent et du passé. Et j'aimerais revenir sur quelque chose. Il y a cette chose très très belle dans le Cantique des Cantiques, cette phrase qui dit « Je me suis assis à l'ombre de celui que j'avais désiré ». Celui que j'avais désiré est interprété comme étant la divinité Elohim. Et Elohim étant un pluriel, on est dans des ombres plurielles. Et ces ombres plurielles sont, je reviens à une autre genèse, sont aussi à l'origine de mon premier livre. On revient loin dans le passé, un livre où une femme... ces ombres plurielles dans ce livre sont les ombres humaines qui vont grandir et rapetisser au fil des heures, comme dans un cadran solaire, de la plus grande à la plus petite, et vice-versa. Et selon moi, nous apprennent la vanité de nos orgueils, ou la vanité de notre vanité. Et à quoi bon se croire puissant et grand, puisqu'on va de toute façon rapetisser au fil des heures. À midi, l'ombre va totalement disparaître. Et donc cette femme marchait sur un désert, et elle avait une phrase, elle s'appelait Zot Sheyodat, celle qui sait, ce qui était très ironique. Elle savait une chose, elle savait se dire à elle-même, regarde ton ombre, c'est elle qui montre le chemin, n'oublie jamais de t'arrêter quand le soleil est au plus haut. Mais je me suis rendu compte, il y a peu de temps, que ce livre, je l'ai écrit quand Raphaël était tout petit, je l'ai commencé, il était tout petit, puis il est sorti, il avait déjà 4 ans. Il m'a été... je marchais pour la première fois avec un enfant à mes côtés, lui donnant la main. Il y avait mon ombre grande et la sienne petite. Et je me suis rendu compte que ce premier livre m'a été... C'est lui qui m'en a fait cadeau d'une certaine manière. J'ai commencé à écrire avec lui. J'avais envie d'écrire avant, bien sûr. Mais c'est lui qui a été à l'origine de cette... J'ai compris à ce moment-là la vanité de l'orgueil et la vanité de se croire très grand alors qu'il y avait cette petite main dans la mienne et cette petite ombre à mes côtés. Et donc je trouve absolument extraordinaire que 35 ans plus tard, on en soit arrivé à écrire un livre ensemble. Je suis très émue. Et un livre qui... qui nous parle justement de l'aveuglement de la lumière et de notre propre narcissisme qui en arrive à des dimensions outrées, dirons-nous. Pour rester prudent.
Patricia, j'aimerais que vous nous lisiez un petit morceau d'une des lettres de Raphaël qu'il y a dans ce livre « Bande passante ».
Je lis maintenant un extrait d'une lettre de Raphaël, écrite le 6 mars, et qui est présentée ainsi. « Le 6 mars, dieu de la guerre, à Montréal. Le sphinx, hautain, demande à Ulysse, qui commence sur quatre pattes, continue sur deux, passe le plus clair de son temps libre à associer des formes géométriques de couleurs sur un écran rétro-éclairé et finit sous roulette à regarder des menteurs mentir sur un écran rétro-éclairé de plus grand format. Je me suis réveillée tôt et je suis partie pour mon odyssée quotidienne sur la mer de glace. Les cyclopes brisent des petits carrés de couleurs sur leur appareil intelligent. Les sirènes font pareil. Plus de champs, plus de rochers, juste des petits triangles et des petits carrés. Et je tiens à préciser tout de même, c'est assez amusant. Je m'en suis rendu compte ce matin en choisissant cet extrait. Raphaël dit « Le sphinx hautain demande à Ulysse ». Mais ce n'est pas à Ulysse que le sphinx a demandé, c'est à Oedipe.
Oedipe, oui.
Mais il ne voulait pas probablement se lancer dans un terrain aussi glissant. Voilà.
Mais moi, c'est Hanouka.
Avec toi, tous les soirs, c'est Hanouka.
Papa, ça suffit maintenant. Il faut qu'il dorme, ses enfants.
Ah, d'accord. Oui.
Et les cadeaux? Où tu as mis les cadeaux?
Les cadeaux? Mais quel cadeau?
Oh, papa.
Oui. Mais c'était pour rire. Pour Tania, une nouvelle capuche joyeuse, Hanouka, Tania.
Oh, papa, merci beaucoup.
J'y croyais que tu avais une mère aussi.
Merci, maman.
Et pour toi, Fievel, une casquette neuve, et pas n'importe quelle casquette, une casquette neuve qui a appartenu à la famille depuis 3 générations. Elle a appartenu à moi, à mon père et au père de mon père. Et maintenant, elle t'appartient à toi. Joyeux Hanouka, Fievel.
Elle est trop grande.
Tu grandiras.
Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de la souris géante du Minsk?
Non. C'était pas une souris qui avait des très longs cheveux et le prince grimpait le long des cheveux?
Non, cette souris-là, la souris de Minsk, il était grand comme un arbre. Sa queue, il faisait 1 kilomètre de long.
C'est vrai?
Bien sûr que si, c'est vrai. Il était tellement gros qu'il faisait peur aux chats.
Chut! Ne dis pas ces mots. Tu ne peux pas parler d'autre chose.
L'Amérique.
Fievel et le Nouveau Monde. Un personnage créé par David Kirchner en 1986. Un long métrage d'animation de Don Bluth. Spielberg en est aussi l'un des producteurs. Cela fait partie aussi de votre transmission familiale, Patricia Faradzi, si je puis dire. Je crois que la casquette joue un rôle fondamental.
Pas la casquette qui joue un rôle fondamental.
Oui.
C'est ce qui m'amuse dans l'histoire de la casquette, c'est la non-obsolescence des choses à l'époque de ce dessin animé. Cette casquette qui est dans la famille depuis 3 générations, transmise. C'est la beauté de la transmission.
Oui, alors c'est justement ça me...
Une autre bande passante.
Ça me rappelle, cette casquette me rappelle un texte de Kafka. Il dit « Je possède une étrange bête, moitié chaton, moitié agneau. Je l'ai hérité de mon père. » Je crois que c'est une façon d'introduire le bestiaire de Kafka qui habite toute son œuvre. Et en particulier, cette fameuse souris portant le joli nom de Joséphine et qui apparaît dans le récit intitulé « Joséphine la cantatrice », publié une première fois en avril 1924, l'année de sa mort, et une seconde fois dans le recueil posthume « L'artiste de la fin », sous un titre un peu différent, « Joséphine la cantatrice » ou « Le peuple des souris
».
Patricia Faradzi, c'est un récit qui compte beaucoup pour vous et qui vous a beaucoup inspiré jusqu'à un livre.
C'est un récit qui m'accompagne depuis presque 50 ans. Donc j'étais adolescente, vieille adolescente quand je l'ai lu. Il ne m'accompagne pas, je ne veux pas dire par là qu'il est sans arrêt sur ma table de chevet et que je le relis sans arrêt, mais Joséphine est un personnage qui a toujours été une énigme pour moi et auquel je me suis probablement identifiée dans ma jeunesse parce que j'étais très peu bavarde. Parce que Joséphine, la cantatrice, est une cantatrice à faune. C'est là tout le charme et en même temps l'énigme de ce récit. On l'entend à peine, son sifflement est à peine plus, pas même plus mélodieux que celui des autres souris, du peuple des souris. Ce peuple dont on ne sait pas très bien, par moments, on a la sensation que ce ne sont pas des souris du tout. Mais avec Kafka, sait-on jamais. Mais bien qu'on ne l'entende pas, bien qu'il faille tendre l'oreille, et peut-être parce qu'il faut tendre l'oreille, Joséphine, quand elle prend sa posture pour chanter, tout le peuple des souris s'arrête et l'écoute, même si il n'écoute que le silence. Et quand j'ai commencé à vouloir écrire un livre sur les animaux, Joséphine s'est présentée à moi de manière presque naturelle. Mais utilise-moi, prends-moi, puisque ça fait si longtemps qu'on est ensemble, vas-y, parle de moi. Et je me suis rendu compte que Kafka avait écrit ce texte alors qu'il était lui-même, qu'il ne pouvait quasiment plus parler. Et dans l'animal d'expérience, dans ce livre que j'ai écrit, Joséphine parle très peu. C'est Franz, c'est F. Je n'ai pas voulu dire K. C'est F qui parle comme si dans cette dimension surnaturelle, sur ce terrain étrange, on le verra si on découvre le livre, cette espèce de luna park où viennent échouer les rebuts, les hybrides, comme si dans cet univers qui est tellement le sien, que je lui offre, il retrouvait l'usage de cette parole qu'il a perdue.
Un dialogue donc avec Kafka, et dans le prologue de ce livre de 2018, Animal d'expérience, que vous écrivez donc en dialogue avec ce récit de Kafka, Joséphine la cantatrice, vous écrivez que ce livre est une parabole, un mot auquel vous donnez un sens très précis et très fort, qui oriente ce livre, mais peut-être toute votre écriture, et rejoint l'une des dimensions, en tout cas je crois, ontologiques de la littérature. Patricia Faradi, qu'est-ce que vous entendez par parabole ?
Oh, je ne suis pas très loin de la définition de la parabole, qui est le récit allégorique, une manière de mieux comprendre une idée grâce à une histoire, une métaphore. Mais c'est surtout, encore une fois, se placer du côté de l'ombre du récit, se placer du côté de l'ironie du récit. Et il n'était pas question pour moi d'écrire sur les animaux. Je ne suis pas scientifique. Et il était important pour moi d'écrire sur les animaux d'expérience, d'où la souris. Et d'ailleurs, le titre, l'animal d'expérience, peut être entendu doublement. C'est un animal qui sert à des expériences, mais c'est aussi un animal qui a de l'expérience. Et donc, il s'agissait de parler des animaux d'expérience d'une manière très éloigné de tout ce qui représente la cause des animaux, le militantisme autour des animaux, etc. Il fallait que j'invente un animal et que j'invente une expérience sur cet animal qui n'a jamais eu lieu, de manière à raccorder mon propos, Kafka, Joséphine. Et j'ai donc inventé un animal qui s'appelle le Lungsa, ne me demandez pas d'où est venu ce nom, qui est une sorte de loup, transformé en pauvre être qui ne peut à peine se traîner, auquel les humains scientifiques de mon récit, qui heureusement n'existe pas, ont inculqué le langage. Et le langage pour cet être est une abominable souffrance. C'est une abominable souffrance parce que c'est quelque chose qui l'oblige à prendre en compte sa propre mort, et à se rendre compte, à pouvoir exprimer en mots tout ce qu'on lui fait subir, et ça ne lui en donne pas pour cela une meilleure compréhension, et ça n'apporte rien aux humains.
Et ce Lungsa qui Et sur un terrain avec un T majuscule, c'est quoi ce terrain? Est-ce que c'est le terrain de l'écriture? Est-ce que c'est le terrain que l'on laboure justement
avec, c'est le terrain avec de l'expérience.
De l'expérience, oui. Mais ce T majuscule.
Oui, parce que ce n'est pas un terrain, c'est le terrain où viennent échouer, où ces scientifiques du récit viennent faire échouer tous les animaux, les rebuts, les hybrides, tous ceux qu'ils n'ont pas réussi à utiliser jusqu'au bout, tous ces hybrides dont ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils n'ont pas l'expérience à rater.
Alors avec quand j'ai posé la question sur la parabole, j'ai trouvé dans votre prologue justement deux mots, trois mots, quatre mots qui pour moi sont éclairants justement parce que vous dites il s'agit d'évoquer et non pas de démontrer. Et je crois que ces quelques mots, c'est quelque chose d'admirable, ça semble simple mais c'est extraordinaire parce que ça dit toute une méthodologie et ça dit justement l'essence peut-être de la littérature qui ne veut pas démontrer mais évoquer. Et avec cet animal d'expérience, vous nous offrez un livre d'une densité extraordinaire. Il faut prendre du temps, accepter un lento pour y entrer et se laisser porter et emporter. Un livre qui est fait de musique et de silence, qui est construit de multiples strates, de contrepoints, d'évocations, d'invocations et de convocations. Et je pense particulièrement à Primo Levi, oui, qui est l'une des personnes dont l'ombre se profile entre les lignes, comme dans ce numéro de dossier 6 570 001, vous écrivez, je vous cite, « Cette sentence, je la connaissais, je l'avais écrite moi-même il y a si longtemps, consignée dans le grand registre, Joséphine, cantatrice du Peuple des Souris, dossier 6 570 001. » a décidé de siffler, donc Joséphine a décidé de siffler, mettant fin par cette décision à toute possibilité d'en recourir au chant, fin de citation, et 6 570 001, c'est 6 millions, un nombre où viennent se tisser 5, 1 et 7, précisément les trois derniers chiffres du matricule de Primo Levi, qui est 174 517, Patricia Farazi.
C'est très troublant, je ne le savais pas. Oui, évidemment, la parabole sur les animaux d'expérience ne peut pas ne pas amener à l'inhumanité des expériences qui ont été menées sur des humains. C'était aussi le propos, la double ombre du récit fait référence à un monde où, bien évidemment, si les animaux disparaissent, si on fait subir aux animaux des expériences atroces, on perd notre propre humanité. Et quand j'ai écrit ce livre, j'avais lu bien des livres de Primo Levi, mais je n'avais pas encore lu, et je l'ai découvert après, je n'avais pas encore lu un très beau livre de lui, qui s'appelle en italien Ranocchi sulla Luna, je ne connais pas le titre français, je l'ai lu en italien, et où il, à travers des récits, il fait vivre toutes sortes d'animaux réels et imaginaires, et où il dit que s'il pouvait, il aurait chez lui mais tous les animaux possibles. Et là, j'ai senti vraiment une grande fraternité avec un individu extraordinaire, comme nous le savons. Et en lisant la préface de ce livre, j'ai encore découvert autre chose. Le préfacier rapporte une petite histoire. Il raconte que Primo Levi est invité chez des amis a apporté comme cadeau à leur fille un cobaye, un animal, un petit cobaye. Et il en a bien précisé le nom, il a bien dit que c'était un cobaye. Mais d'après le préfacier, Primo Levi n'était, et on le sait, n'était pas quelqu'un qui aimait ni se plaindre, ni ramener, enfin, ramener les choses vers lui, mais... Donc il ne voulait pas forcément par là, il rappelait bien que c'était un cobaye, mais il ne voulait pas forcément par là rappeler qu'il avait été lui-même l'un des animaux d'expérience sur lesquels les nazis menaient leurs immondes expérimentations. Il disait par ce don, tout en faisant allusion au destin de tant d'êtres vivants anéantis sans raison, que le plus humble des animaux, pour qui sait l'observer, est une source de délices et d'émerveillement. Mais j'ajouterais, l'observer, si ce n'est un animal domestique, car cela existe aussi, l'observer de loin, ne pas le déranger dans sa vie. On s'est trop permis de se dire, nous les humains, que les animaux nous appartiennent, qu'on peut les utiliser comme on utilise aussi des hommes, des femmes, les faire travailler, les prendre des parties de leur corps pour y mener des expériences, et même les étudier. On devrait leur fiche la paix.
Merci Patricia Farazzi pour ce beau moment de radio.
Merci à
beau,
vous.
Beau et émouvant. Je rappelle le titre de vos deux derniers ouvrages, Bande passante, écrit avec votre fils Raphaël Valency, et Animal d'expérience, tous deux parus aux éditions de l'Éclat, deux livres qui, pour reprendre une belle expression de Vincent Jouve, font vivre au lecteur l'expérience du consentement euphorique à la fiction. Merci encore Patricia Farazzi.
Magnifique, merci beaucoup.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin. À la prise de son aujourd'hui, Ludwine Caron. À la réalisation, comme d'habitude, est déjà plongée dans les bandes passantes d'Annie Journeau. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudic. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Thank you.